Bonsoir et bienvenue dans le feuilleton de France Culture. Ce soir et tous les soirs de cette semaine, fiction et histoire se croisent en direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Mai 68 s'est beaucoup écrit à travers les affiches, les slogans. Deux historiens l'ont très vite compris, Pierre Vidal-Naquet et Alain Schnapp, ont collecté tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les rues, dans les poches, les salles de réunion, auprès de leurs amis. Parmi plusieurs milliers de tracts et de journaux, ils ont retenu 362 textes reproduits et commentés dans un livre intitulé « Journal de la commune étudiante, textes et documents, novembre 1967-juin 1968 », un livre paru dès le début de l'année 69. À l'occasion de la réédition de cet ouvrage aux éditions du Seuil, nous avons proposé à Sophie Maurer, écrivain universitaire, de composer un feuilleton polyphonique en taillant un chemin dans tous ces documents. Voici donc ces pages volées au journal de la commune étudiante. On retrouve tout de suite le réalisateur Christophe Hoquet et son équipe en direct du studio 118 de la Maison de la Radio.
Épisode 2, Nanterre.
À Nanterre, pour tout le bidonville de la Folie, 10 000 habitants, un seul poste d'eau. Elle s'y vend en marché noir 50 centimes le bidon. Pas d'installation de viabilité pour ces agglomérations tolérées. D'où la fréquence des incendies. Nul n'a le droit de construire en dur dans ces villages voués à la destruction.
J'ai voulu construire...
C'est à Nanterre, cauchemar de béton enchâssé dans le paysage d'un autre cauchemar, celui du bidonville, que mai 68 a commencé. Plus précisément dans le bâtiment C, celui des philosophes, des psychologues et des sociologues. Pourquoi à Nanterre ? En octobre 1967, la faculté des lettres construite 4 ans plus tôt pour moins de 10 000 étudiants doit en accueillir près de 12 000. La rentrée universitaire s'y fait dans des conditions qui frisent le désastre. Dans leur majorité pourtant, les étudiants de Nanterre, recrutés pour une large part dans la partie ouest de Paris, issus pour une large part de l'enseignement libre, sont plutôt moins à gauche que les étudiants des autres facultés. Mais l'action de ceux qui s'auto-désigneront comme « le groupe des enragés », parce qu'elle pose des problèmes réels, est d'abord celui de la relation enseignant-enseigné et celui de la finalité des sciences humaines, entraîne peu à peu une fraction considérable du reste des étudiants et du coup crée, en face, un bloc professoral. Cet affrontement n'ira qu'en s'intensifiant, jusqu'à la suspension totale des cours à partir du 3 mai. Dès le mois de novembre 1967, l'UNEF, Union Nationale des Étudiants de France, réussit à organiser à Nanterre une grève qui devient quasi totale du lundi 20 au samedi 25 novembre. Cette mobilisation a des objectifs précis et techniques qui reçoivent partiellement satisfaction. Pourtant, elle se voit violemment critiquée par une nouvelle entité baptisée le Groupe des étudiants fantômes dans un tract diffusé fin novembre et ironiquement intitulé « La grève modèle de Nanterre ».
La grève de la semaine dernière est bien caractéristique du goût des étudiants pour le cinéma et les vessies à la place des lanternes. Au moins, faisons que ça se sache.
Dernier exemple en date du contrôle politique et moral qui s'exerce sur les étudiants, 27 novembre 1967. Le directeur de la cité a fait relever par les femmes de ménage les noms des étudiants qui avaient reçu des filles la nuit.
Ne parlons pas de ceux qui, non contents d'être de bons étudiants, veulent obliger les autres à l'être aussi et qui réclament les contrôles d'assiduité.
Les contrôles d'assiduité.
On nous a laissé croire que c'était une affaire pédagogique. En réalité, c'est une question de contrôle policier-administratif.
Policier, trait d'union, administratif.
Lutter contre les étudiants fantômes. Ce ne sont certainement pas ceux-là qui gênent les autres dans leurs études, mais ce sont peut-être ceux qui s'amusent le plus.
Quant à la réduction des effectifs en travaux pratiques, c'est juste ce que le gouvernement veut pour former l'élite de la nation, pendant que les incapables,
les ouvriers,
les juifs,
les noirs
et les asiatiques
subiront l'enseignement super spécialisé dans des entreprises auxquelles ils seront liés par contrat.
C'est toute la domination des classes dirigeantes qu'il s'agissait de remettre en cause. Grande victoire,
bidon.
Les chers professeurs de Sorbonne, les prospecteurs du rendement inodore, les bureaucrates affolés de ministères, ces faux illustres et les vrais médiocres, toujours à vagir les uns sur les autres, s'accordent pour devenir les chantres de cette fausse angoisse.
Que faire des étudiants ?
Que faire de cette horde ?
À les entendre, un seul personnage fait dérailler la machine. L'étudiant. Multiplié, cet individu devient un problème social. étrangers aux mœurs et coutumes de l'institution.
Les planificateurs, eux, préfèrent le contrôle rigoureux d'une masse d'apprentis intellectuels nécessaires aux besoins de l'économie capitaliste et dont ils fixent souverainement le nombre et façonnent l'attitude docile et le degré d'inculture.
Le syndicat des étudiants demande que nous soyons encadrés décemment par de jeunes enseignants, des pédagogues, dont la formation inachevée est un gage de travail controversé et critique.
En bref, nous voulons bien des milliers d'assistants, mais nous déclarons solennellement que moins il y aura de professeurs et plus l'éducation mutuelle des seuls usagers sains de l'université sera libre.
Plus de cours poussiéreux.
Plus de bergsonades annonnées.
Plus d'examens pour singes savants.
Voilà la perspective qui seule peut nous garantir une quelconque joie d'apprendre.
Note de bas de page.
L'achèvement de cette perspective n'est évidemment pas possible sans la révolution.
Bergsonades annonnées.
Quelconque joie d'apprendre.
Seuls usagers sains de l'université.
Évidemment, pas possible sans la révolution.
Le 8 janvier 68 éclate l'incident Cohn-Bendit-Missoff. Lors de l'inauguration de la piscine du campus de Nanterre, Daniel Cohn-Bendit, alors inconnu, interpelle le ministre de la Jeunesse et des Sports. « Votre livre blanc de la jeunesse ne dit pas un mot de la sexualité. » Le ministre répond en montrant la piscine, faite, dit-il, pour résoudre ce genre de problème. « Propos hitlériens », répond l'étudiant, qui sera pour la peine menacé d'expulsion du territoire français. Le 26 janvier, des pancartes affichent aux yeux de tous des photos des policiers en civil qui circulent dans la faculté. Des membres de l'administration sont bousculés. Le doyen fait appel à la police, mais les policiers sont mis à la porte par un groupe d'étudiants. Les enragés apparaissent alors sous ce nom qu'ils empruntent aux disciples de Jacques Roux, précurseur du socialisme, adversaire de gauche de Robespierre. Ils signent le chant de guerre des Polonais de Nanterre.
Malgré ces policiers, ce grappin avait résolu, de nous faire tomber sur le cul, mais son coup a foiré, malgré ces policiers,
De nouveaux incidents éclatent le 14 mars dans le cours de psychologie de Robert Frances. À cette occasion, un nouveau tract est distribué qui restera dans les mémoires, celui des oies gavées.
Question. Que nous propose la faculté alors que nous venons y chercher des voies d'ouverture d'esprit ?
Réponse. Un paternalisme primaire qui, en favorisant l'élevage d'oies gavées, nous maintient dans la stérilité intellectuelle.
Cet enseignement nous lasse avant de nous dégoûter par son caractère mécanique, figé et mort.
L'étudiant n'est plus qu'un scribe.
Nous exigeons que la vie, l'ardeur, la recherche, le vrai travail en commun remplacent enfin la fadeur et la léthargie des amphithéâtres.
Le 21 mars, l'Association des résidents de la Cité universitaire de Nanterre organise une conférence sur le thème « Sexualité et répression ». Elle diffuse à cette occasion des extraits d'un manifeste de Wilhelm Reich, disciple de Freud et théoricien politique portant le même titre et publié en 1936.
Ce qu'est le chaos sexuel ?
C'est faire appel dans le lit conjugal à la loi du devoir conjugal.
C'est contracter une liaison sexuelle à vie sans avoir connu sexuellement auparavant le partenaire.
C'est, à 14 ans, peloter mentalement avec avidité de haut en bas toute image de femme à moitié nue, et ensuite, à 20 ans, entrer en lice comme nationaliste pour la pureté et l'honneur de la femme.
Ce que n'est pas le chaos sexuel ?
C'est désiré par amour réciproque, l'abandon sexuel, sans tenir compte des lois établies, des préceptes moraux, et agir en conséquence.
C'est ne mettre au monde des enfants que lorsqu'on les désire et peut les élever.
C'est ne pas se marier ou se lier durablement sans avoir connu exactement son partenaire sur le plan sexuel.
C'est ne pas réclamer de quelqu'un un droit à l'amour et à l'abandon sexuel.
C'est agir en conséquence.
Le 21 mars, six militants du comité Vietnam national, dont un étudiant de Nanterre, Xavier Langlade, soupçonné d'avoir brisé les vitrines d'American Express, sont arrêtés. Ils seront relâchés moins de 48 heures après, mais des bruits se répandent à Nanterre. Torture, menace de détention de longue durée. Dans la soirée, les enragés décident de passer à l'action. 142 d'entre eux occupent la salle du conseil. C'est la naissance du mouvement du 22 mars. C'est aussi la naissance du pouvoir étudiant. Et c'est surtout la conversion décisive des forces nées de la lutte en faveur du tiers-monde et du Vietnam vers des objectifs français.
La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysanne.
Voici le compte-rendu des faits tel qu'il fut donné à l'Assemblée de la faculté. 26 mars, année universitaire 1967-68, quatrième séance.
Monsieur le doyen ouvre la séance à 17h15. Il relate les incidents du vendredi 22 mars. Une occupation de la salle du conseil par un groupe d'étudiants a lieu vendredi soir. Le mobile avoué était l'arrestation de plusieurs étudiants, dont un ancien étudiant de Nanterre, accusé d'être responsable d'attentats contre des locaux américains à Paris. Dans la journée de vendredi, diverses inscriptions étaient apparues sur les murs de la faculté. D'après le doyen, lundi et mardi, plusieurs manifestations confirment une volonté de paralyser le fonctionnement de la faculté. C'est là une situation nouvelle et particulièrement grave. Selon lui, le calme ne pourra être rétabli qu'avec la collaboration de tous, enseignants et étudiants. Chacun dans son domaine contribuera à isoler une petite minorité agissante.
Monsieur l'assesseur apporte son témoignage. Après la réunion de la commission enseignants-étudiants qui témoigne de l'existence d'un dialogue, Monsieur Bourget rencontre une centaine d'étudiants en bas du bâtiment B. Vers 20h30, en dépit de son intervention, les manifestants montent dans les étages et réussissent à pénétrer dans la salle du conseil où ils tiendront une discussion politique doublée d'un pique-nique. Avec l'accord de Monsieur le recteur Chalin, Monsieur Bourget décide de ne pas faire appel à la police, solution qui aurait donné une publicité inopportune à l'événement et solidarisé avec ce groupe d'autres étudiants. Aucune destruction systématique du matériel n'a été opérée.
Il ajoute que, certes, l'expression d'idéologie de destruction de la société ne nous concerne pas, mais si cette contestation passe par la destruction de l'université, il faut réagir. Or, trois groupes au moins semblent viser ce but spécifique. Leclerc, comité de liaison des étudiants révolutionnaires, les jeunesses communistes révolutionnaires et un noyau anarchiste. Aussi, dit-il, des étudiants ont pénétré dans certains locaux administratifs, touché à des dossiers, cassé une poignée de porte, arraché des fils téléphoniques. L'Assemblée est unanime à condamner ce type de manifestation, mais des divergences se manifestent quant aux décisions à prendre.
À savoir faire intervenir la police, combiner une action répressive intérieure et une campagne d'information, chercher la solution dans un dialogue avec les étudiants. La discussion se cristallise autour de 5 moyens d'action possibles. Petit A, les poursuites judiciaires. Petit B, les poursuites universitaires. Petit C, l'autodéfense, difficile à organiser. Petit D, l'information de l'opinion publique. Petit E, la création d'un corps de police autonome pour le service intérieur de la faculté. Pour le petit E, c'est affaire surtout de crédit.
Les enseignements sont suspendus du 28 mars au 1er avril. L'Assemblée de la faculté se réunit à nouveau le 30 mars et témoigne d'une prise de conscience de la gravité de la crise beaucoup plus nette que 4 jours auparavant. 30 mars, année universitaire 1967-68, cinquième séance.
Réouverture de la faculté après la suspension des enseignements du 28 mars 1968. Les cours reprennent le lundi 1er avril.
Monsieur le doyen attire tout particulièrement l'attention des membres de l'Assemblée sur le fait que la façon dont reprendra l'enseignement est déterminante pour l'avenir.
Monsieur le doyen affichera un texte sur les conditions de reprise de l'enseignement.
Monsieur le doyen ajoute que lorsqu'un cours a lieu dans une salle, ce qui s'y passe est l'affaire de l'enseignant. Lui seul en est responsable et il lui est loisible d'y organiser tel débat qu'il voudra. Ce qui reste inadmissible, c'est que des groupes qui n'ont normalement pas à être dans la salle cherchent à y pénétrer et à s'y imposer.
Je suis prêt, dit Monsieur le doyen, à intervenir avec énergie s'il le faut.
Monsieur Le Cercle souligne que des mesures de répression risqueraient de déclencher de nouveaux incidents. Il y a chez nos étudiants un désir confus mais profond de démocratie et de liberté.
Monsieur Senninger signale qu'un certain nombre d'étudiants, sans approuver les méthodes des agitateurs, éprouve envers eux une certaine sympathie.
Monsieur le doyen répond qu'il a senti aussi ce phénomène.
Madame Pardo confirme la sympathie que ressentent certains étudiants pour les agitateurs.
Monsieur Le Cercle montre que cette sympathie provient d'une confusion entretenue par les agitateurs entre les problèmes d'ordre général et les problèmes proprement universitaires. Le rôle des enseignants lui apparaît donc comme étant de démasquer aux étudiants les problèmes universitaires et de les séparer des problèmes politiques plus généraux.
Monsieur le doyen rappelle que des mots comme « études » ou « recherche » sont à remettre en valeur auprès de nos étudiants. Ils sont ignorants pour la plupart du rôle de la recherche dans la préparation d'une action, d'une décision. Plus généralement, ils ignorent les contraintes et les convenances de la vie sociale. Il y a lieu d'étendre notre rôle pédagogique dans cette voie. Avec énergie s'il le faut.
Monsieur Crouzet affirme avec vigueur qu'à côté du droit des étudiants, il y a lieu de tenir compte d'abord du droit des enseignants à faire leurs cours et leur enseignement.
Monsieur le doyen estime que ce n'est pas une capitulation que d'accorder aux étudiants un lieu de discussion. Il faut éviter de disperser la discussion dans les couloirs, il vaut mieux la cristalliser dans certains lieux.
Monsieur Touraine déclare qu'il ne faut surtout pas croire que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a crise, il y a un modèle de l'université libérale traditionnelle qui est remis en cause et que nous devons quitter.
Où aboutira cette remise en cause, nul ne le sait encore. Mais il est certain qu'une certaine forme de contestation est née ces jours derniers. Nous ne nous en débarrasserons plus. Nous serons obligés de vivre avec elle. Nous naviguerons à vue sans pouvoir dire où nous arriverons.
Monsieur Anzieux intervient. Le devoir fondamental des professeurs, parmi d'autres comme l'enseignement, la recherche, c'est de juger l'étudiant. Dans toute société, dans tout pays, les cadres supérieurs ont à juger. Il est inévitable et indispensable qu'à un moment ou à un autre, on soit amené à se soumettre au jugement de quelqu'un d'autre. C'est par l'examen que le professeur juge l'étudiant, et il ne peut ni ne doit en être autrement. Nos étudiants sont soumis à notre jugement comme nous l'avons été à celui de nos pères. C'est une des règles fondamentales et inévitables de la vie sociale.
Madame Duchemin vient d'apprendre que la manifestation prévue pour le vendredi 29 est reportée au mardi 2 avril.
Monsieur Bastier demande ce qui se passera mardi si l'occupation du bâtiment C a lieu.
Monsieur le doyen répond qu'il verra à ce moment-là.
Donne-moi ta main et prends la mienne.
La cloche a sonné, ça signifie
la rue est à nous, que la joie vienne.
Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Rien que d'y penser, j'en perds la tête.
Les vacances de Pâques ne mettent pas un terme à l'action étudiante. La rentrée voit la parution le 22 avril d'un bulletin du mouvement du 22 mars qui, par dérision, s'intitule « Bulletin numéro 5494 bis, supplément au numéro 5494 ». On y trouve une revue de presse, on y trouve aussi le rapport d'une commission « Culture et créativité ».
La créativité est la chose du monde la mieux partagée. L'enfance le prouve. Le propre des gestes ludiques de l'enfant est d'être poésie, c'est-à-dire de réaliser une parfaite harmonie entre la subjectivité qu'ils expriment et le monde qu'elle trouve devant elle comme possibilité de son objectivation. Cette harmonie est notre idéal révolutionnaire. La permettre à nouveau, la retrouver, tel est notre programme.
On y trouve encore un rapport sur les luttes anti-impérialistes, le texte de l'Internationale, une recette du cocktail Molotov et bien sûr un éditorial.
Le mardi 2 avril est un succès. L'administration ne parvient pas à empêcher l'occupation par 1500 personnes de l'amphithéâtre B1 pour un meeting de départ, ni les corporatistes et les fascistes à empêcher la tenue des commissions dans la salle du bâtiment C.
L'assemblée plénière terminale, à laquelle participent 800 étudiants et quelques assistants, décide de continuer le mouvement et de publier le présent bulletin.
Le mouvement de Nanterre est nettement politisé. Du même coup, il s'est révélé minoritaire et conscient de ce fait. À Nanterre, il est clair que beaucoup acceptent les études supérieures comme initiation à la direction des affaires bourgeoises.
Un travail a été réalisé en commun. Un processus est en cours où les divergences naîtront de l'affrontement théorique et pratique à la réalité, plutôt que de querelles de mots entre chapelles.
Nous sommes résolus à éviter les récupérations par un groupe politique particuliers comme par l'administration et les enseignants libéraux. Le mouvement manifeste sa vitalité par deux traits supplémentaires, foisonnement des tendances et retard de la théorie sur la pratique.
Personne ne sait encore très bien ce qui se passe.
Nous espérons, en diffusant ce bulletin, contribuer un tant soit peu à l'extension à d'autres facultés de l'agitation étudiante, afin que la critique de l'université puisse déboucher sur une action politique radicale et permanente.
On y trouve également le rapport d'une commission lutte étudiante, lutte ouvrière dans les pays de l'Est.
La commission a d'abord été informative car certains de ses membres ignoraient tout ce qui se passait dans les pays de l'Est et venaient simplement pour se renseigner.
La commission a ensuite considéré qu'étudier le problème des luttes ouvrières et des luttes étudiantes dans les pays de l'Est revenait à poser le problème de l'État dans ces pays.
La commission est divisée sur ce problème.
Certains de ses membres considèrent que ces pays sont d'authentiques États socialistes.
D'autres considèrent que ce sont des États bureaucratiques.
D'autre part, certains considèrent que la bureaucratie est une caste.
D'autres considèrent qu'elle est une classe.
Tels sont les problèmes que la commission a décidé de traiter et sur lesquels elle compte rédiger un texte.
Le même jour que l'apparition de ce bulletin, le conseil de la faculté se réunit, délibère sur une motion d'une exceptionnelle violence et prend des décisions d'une extrême gravité. 22 avril, année universitaire 1967-68, 10e séance.
Le conseil demande la création dans l'immédiat d'une force universitaire de sécurité placée sous l'autorité du doyen. Vote pour 25, vote contre 5, abstention 6. Le conseil demande que les surfaces non bâties du domaine soient déclarées voie publique, c'est-à-dire ouverte à l'intervention de la police. Vote pour 19, vote contre 7, abstention 8.
Procès verbal du conseil de la faculté du 29 avril 1968.
Le corps enseignant, unanime, exprime sa détermination à assurer le déroulement des examens dans les formes réglementaires. Les épreuves écrites commenceront le mercredi 22 mai.
Les assistants et maîtres assistants basculent du côté des étudiants. Motion de l'Assemblée des assistants et maîtres assistants de Nanterre.
L'effervescence étudiante met en évidence, sous sa violence même, des problèmes qui sont sérieux et qui sont ceux des étudiants et des enseignants ensemble. L'Assemblée refuse d'assurer la tenue des examens en présence des forces policières dans la faculté.
Le jeudi 2 mai. Le cours d'histoire contemporaine de René Raymond est interrompu par des enragés qui demandent à occuper son amphithéâtre. Un banc est lancé en direction de sa chaire. Cet incident et d'autres conduisent le doyen à décider de la suspension sine die des enseignements.
Destinataire, tout professeur, affichage. À partir du vendredi 3 mai, 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques sont suspendus à la Faculté des Lettres de Nanterre. Il s'agit là de mesures exceptionnelles dont je mesure toute la gravité, mais que les excès de quelques-uns ont rendu nécessaires. Pierre Grappin, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nanterre, 2 mai 1968.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Mené dans le ruisseau, c'est la faute. Ta Grimaud, on m'a foutu en tôle, c'est la faute à De Gaulle, on m'a tout amoché, c'est la faute à Foucher.
Journal de la commune étudiante de mai 68, d'après Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet. Présentation et choix des documents, Sophie Maurer. Avec Emmanuel Destremont, Hector Manuel, Joachim Pavi, Georges Slovic, Judith Zins, Rose Martine, Eugène Marcuse et Florence Mazot. Musique originale composée et interprétée par Stéphane Bissière. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlan, Dali Yara. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation en direct de Christophe Hockey. Le journal de la commune étudiante est édité aux éditions du Seuil.
Nous sommes tous des juifs allemands. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre.
Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr.